parle innovation,
investigation, más desarrollo, más innovación.
Vous écoutez les échos de l'innovation.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette émission Les échos de l'innovation, une émission de débat et de culture scientifique animée par des étudiants et étudiantes du cours sur la science et le débat public de l'Université de technologie de Compiègne. Aujourd'hui, nous sommes quatre étudiants et étudiantes. Bonjour Camille.
Bonjour.
Bonjour Célestine.
Bonjour.
Bonjour Dia.
Bonjour.
Bonjour Charles-Élie.
Et bonjour.
Et moi, c'est Zoé. Et nous avons décidé de parler d'un sujet dont l'importance croît depuis des années. L'impact des réseaux sociaux sur les adolescents. Dans le cadre de notre étude en sciences et débat public, nous avons analysé sous différents aspects l'évolution des réseaux dans notre société. Camille, peux-tu nous présenter un peu plus le sujet, s'il te plaît ?
Avec plaisir, Zoé. Il faut savoir que les réseaux sociaux, ils sont une innovation plutôt récente qui a su se rendre indispensable dans notre quotidien. Donc, cette idée de rendre davantage accessibles les relations privées et professionnelles à travers une plateforme tout en nous permettant de développer notre réseau, elle date de 1997 avec le réseau social Digree. Rapidement, d'autres réseaux ont émergé, donc on peut citer LinkedIn en 2002, un réseau social professionnel ou encore Facebook en 2004. Il est intéressant pour nous de constater que leur place dans la société, elle n'a fait que croître depuis leur création. Donc, par exemple, Facebook, il compte aujourd'hui plus de 3 milliards d'utilisateurs dans le monde et occupe ainsi la place du leader des réseaux sociaux, suivi de près quand même par YouTube. Cet exemple, il permet de démontrer l'étendue de l'utilisation des réseaux sociaux à travers le monde. Leur utilisation, elle a bien évolué. Par exemple, en 2010, on pouvait compter 970 millions d'utilisateurs contre plus de 4,5 milliards aujourd'hui. De même, notre temps passé sur les réseaux sociaux, il est de 2h30 par jour en 2020 contre une moyenne de 5 heures par mois en 2010. Par conséquent, cela confirme que notre mode de consommation d'Internet, il a bel et bien changé. Il est pertinent d'ailleurs de préciser que les jeunes générations sont les utilisateurs les plus réguliers des réseaux sociaux. Donc en janvier 2024, plus de 84% des 15-24 ans en France se connectent à Internet tous les jours, ce qui représente plus de 6,6 millions de jeunes. Or, les réseaux sociaux y représentent 58% de leur temps quotidien passé sur Internet, c'est plus de la moitié. Il est donc limpide que les réseaux sociaux forment une partie intégrante dans la vie des jeunes générations qui ont d'ailleurs grandi avec. Il est vrai que les réseaux sociaux présentent de très nombreux avantages. D'après des témoignages de psychologues rapportés par l'UNICEF, ils offrent une certaine richesse d'informations, très accessibles et simplifiées en plus. Ils permettent de rassembler les gens via des groupes pour entretenir des liens avec des individus dans d'autres régions ou dans d'autres pays. Ils offrent une possibilité de s'exprimer, de prendre part à des causes facilement. D'après Lisa Damour, l'une des psychologues interrogées, les médias sociaux sont une bouée de sauvetage pour les jeunes qui ont du mal à nouer des liens avec leurs pairs au sein de leur communauté. Alors toutefois, ces bienfaits procurés par les réseaux sociaux, ils peuvent être discutables. Effectivement, ces derniers peuvent prendre le pas sur des activités saines et essentielles au bon développement d'un enfant. Donc ça peut être comme le sommeil, les activités sportives ou plus généralement le fait de participer à la vie d'une communauté en allant voir ses amis. Les réseaux sociaux, ils peuvent aussi être un lieu de haine ou d'intimidation ou bien de discrimination et ça peut prendre une place bien trop importante. Et c'est là d'ailleurs la possibilité de se rendre si facilement sur les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire simplement en déverrouillant son téléphone, qui peut être aussi problématique. Le lien n'est jamais coupé. Il n'est pas possible de s'en évader avec les notifications constantes. Donc dans notre émission, nous allons mettre en lumière cette tension entre le bien procuré par les réseaux sociaux et la potentielle dégradation de notre santé mentale à cause d'eux.
Merci beaucoup Camille. En effet, comme tu l'as dit, pour étayer notre sujet dans notre émission, nous allons présenter deux points de vue qui entrent en conflit. D'un côté, un point de vue qui sera axé sur la mise en évidence des impacts négatifs des réseaux sociaux, et de l'autre, un point de vue qui porte sur la valorisation des impacts positifs des réseaux sociaux. Nous nous appuierons aussi sur les études de cas pour appuyer nos propos et apporter une vision plus concrète de ces arguments et de ces propos. Je vais maintenant passer la parole à Dia, qui, après des recherches approfondies, va nous démontrer en quoi les réseaux peuvent représenter un danger pour notre santé mentale.
Merci beaucoup Zoé. Effectivement, il faut le dire, les réseaux sociaux ne sont pas sans conséquences, notamment sur la santé mentale. Aujourd'hui, il est essentiel d'apprendre à utiliser intelligemment ces plateformes pour limiter leurs effets nocifs. Car si elles peuvent nous divertir ou nous rapprocher, elles peuvent aussi nous enfermer, nous isoler et parfois nous fragiliser. On parle ici d'un phénomène de grande ampleur. D'après Statista, on estime que d'ici fin 2025, près de 5,17 milliards de personnes utilisent les réseaux sociaux, soit près de 63% de la population mondiale. Cette omniprésence n'est pas sans conséquences. Elle affecte les enfants, les adolescents, mais aussi les adultes, à différents niveaux, de leur équilibre émotionnel. Parmi les effets les plus préoccupants, la faible estime de soi. En naviguant quotidiennement sur des plateformes remplies d'images retouchées et de récits de vie parfaitement scénarisés, beaucoup se mettent à comparer leur quotidien avec ces illusions de perfection. Et plus cette comparaison s'installe, plus elle génère un sentiment d'inadéquation, de doute, d'insécurité. Une étude publiée dans la revue Addictive Behaviors, comportement addictif, révèle que l'usage excessif et compulsif des réseaux est directement lié à une faible estime de soi, notamment chez les jeunes femmes célibataires. Parce que oui, on communique, mais ces interactions en ligne ne sont pas toujours bienveillantes. Elles peuvent créer une pression, un stress constant et surtout une comparaison permanente avec les autres. C'est pour cette raison qu'on peut évoquer un phénomène qui est de plus en plus observé, qui est le FOMO. Bah, tout simplement, c'est la peur de manquer quelque chose. Cette anxiété liée à la crainte d'être déconnecté pousse les utilisateurs à consulter en permanence leur réseau. Souvent de manière compulsive, cela perturbe le sommeil, affecte la concentration et nourrit un stress constant. Mais, au-delà de la peur ou du mal-être diffus, on parle souvent de dépendance réelle, une forme d'addiction qui se manifeste par le besoin irrépressible de consulter les notifications, d'interagir, de publier. Ce comportement compulsif finit par interférer avec la vie de tous les jours. Les relations, les études, le sommeil, tout est impacté. À cela s'ajoute un isolement progressif, car, paradoxalement, à force d'être connecté virtuellement, on finit par se déconnecter du réel. Les moments passés entre amis ou en famille diminuent, remplacés par des scrolls infinis et des likes sans saveur. Or, plusieurs recherches montrent que seul le soutien émotionnel réel en face à face a un effet protecteur contre l'anxiété et la dépression. Et puis il y a l'épuisement. Trop d'informations, trop de stimulations, trop d'images, notre cerveau finit par se fatiguer. Ce surmenage numérique se traduit par une baisse de motivation, une fatigue mentale persistante et bien souvent des troubles du sommeil. Les adolescents sont particulièrement vulnérables. À cet âge où l'on construit son identité, est exposé à des standards de beauté irréalistes, à des vies idéalisées, à la pression des pairs, peut devenir destructeur. On observe de plus en plus de troubles alimentaires, de crises d'angoisse ou même de malheurs profonds. Et comment ne pas évoquer le cyberharcèlement, un fléau qui touche massivement les plus jeunes. Le cyberharcèlement est devenu une réalité quotidienne pour trop de personnes, à travers des moqueries, des insultes, des menaces en ligne ou même parfois de la diffusion d'informations personnelles. Et souvent, ça se passe dans l'ombre, derrière un écran sans témoin. Mais les conséquences, elles, sont bien réelles. Certains vivent une certaine violence psychologique, une violence qui s'exerce en continu, parfois de manière anonyme, et dont les conséquences peuvent être dévastatrices, repli sur soi. Détresse aussi, isolement, voire des idées noires. Et en plus de ça, sur les réseaux, on partage, on expose, on like, mais en retour, nos données personnelles sont souvent récoltées, analysées, revendues. Et le problème, c'est que peu de gens savent vraiment ce qui se passe en coulisses. Cette impression de perdre le contrôle sur ses propres informations peut créer de l'angoisse et casser la confiance qu'on a envers ces outils qu'on utilise pourtant tous les jours. En somme, les réseaux sociaux posent aujourd'hui de vrais défis pour notre bien-être. L'addiction, la désinformation, les contenus anxiogènes, le harcèlement, tout cela fragilise notre équilibre psychologique. Alors, la question se pose, les réseaux sociaux sont-ils réellement nos alliés? Sont-ils en train de devenir lentement mais sûrement des ennemis silencieux à notre santé?
Merci pour ces arguments, Dia. On se rend davantage compte de l'impact négatif des réseaux sociaux. Toutefois, pour rendre encore plus limpide pour nos chers auditeurs et auditrices cette dangerosité liée aux réseaux sociaux, Camille, peux-tu concrétiser les arguments que nous avons vus à travers une étude de cas? Et je préfère aussi dire pour nos chers auditeurs et auditrices que certains des témoignages et propos que Camille va aborder seront un peu sensibles pour certaines populations, donc à éviter si cela peut heurter votre sensibilité.
Merci Zoé de l'avoir précisé. Alors, les arguments de Dia, j'ai choisi de m'arrêter sur l'image corporelle et comment elle peut se retrouver dégradée à cause des réseaux sociaux. Alors, d'abord, on va faire un petit peu de définition. Alors, c'est quoi l'image corporelle? Elle est associée à l'ensemble des perceptions et des attitudes d'une personne envers son corps. Donc, ça peut être la pensée, les émotions, les croyances ou encore les comportements. Notre image corporelle, elle est amenée à évoluer au cours de notre vie. Parce que notre corps lui-même, il est amené à changer bien fréquemment, donc du passage de l'enfance à l'adolescence jusqu'à devenir un adulte. Ainsi, il arrive que nous ressentons une insatisfaction quant à notre image corporelle et on est amené à évaluer négativement des critères physiques bien précis d'ailleurs. Donc ça peut être la taille, le poids, la forme du visage. En tout cas, on retrouve dans ces cas-là une divergence entre la perception de la personne sur son propre corps avec son idéal corporel. Alors, cet idéal corporel, il évolue lui aussi en fonction de l'époque, de la société dans laquelle on vit. Mais il est souvent basé sur un dogmatisme. L'image d'un corps parfait, de nos jours, il est associé à un corps mince, ferme, exprimant souvent d'ailleurs l'essence de la jeunesse. Toutefois, l'image d'un corps idéal, il se trouve être entretenu par les réseaux sociaux. C'est les plateformes comme Instagram et TikTok qui sont jugées les plus problématiques d'ailleurs sur ces questions. En plus, on a vu précédemment que c'est une catégorie d'âge bien jeune, donc entre 18 et 24-25 ans, qui sont les plus actifs sur ces applications. Donc, dans notre émission et dans notre étude de cas, on va prêter une attention particulière à la plateforme TikTok et à ses trends, donc tendances, qu'on peut y retrouver. Donc, sur cette plateforme, où on peut scroller sans qu'il n'y ait jamais de fin, certains contenus peuvent s'avérer bien dangereux pour notre santé mentale. Donc, la tendance hashtag What I Eat in a Day illustre parfaitement ces propos. Elle consiste à montrer tout ce qu'on mange dans la journée. Donc, même si ça peut permettre de découvrir de nouvelles recettes, ça peut sembler être positif, cette trend, elle est loin d'être neutre et elle encourage des comportements de troubles alimentaires. On y encourage à manger le moins possible afin d'avoir un corps parfait en mangeant seulement un concombre, par exemple. Donc, ça paraît absurde et évidemment, c'est problématique et dangereux, bien sûr. Un autre exemple encore plus extrême d'une tendance TikTok, c'est celle de manger sans avaler. Donc ça consiste à placer du cellophane dans notre bouche afin de nous empêcher d'avaler, mais ça nous donne quand même l'impression d'être rassasié puisqu'on peut faire l'action de mâcher. Alors bien sûr c'est choquant, mais la véritable problématique ici, c'est l'exposition prolongée à ces trends. Plus on semble intéressé par ce genre de contenu, plus l'algorithme sera amené à nous en proposer. Et il suffirait d'ailleurs de seulement 10 minutes de visionnage pour créer un sentiment d'insatisfaction vis-à-vis de notre image corporelle. Il a d'ailleurs été démontré par une étude que les personnes passant plus de 2 heures par jour en consommant des contenus sur la perte de poids, tels que les trends cités précédemment, auraient tendance à manifester davantage de comportements alimentaires troublés, tels que l'anorexie ou la boulimie. Alors, il est limpide que ces trends sont bien évidemment toxiques et elles présentent un impact clair et immédiat sur la santé mentale. Une autre trend sur laquelle nous allons tout particulièrement nous attarder, c'est celle du skinny talk. Alors peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà. En tout cas, la Fédération française anorexie boulimie, qu'on peut appeler aussi FFAB, alerte sur l'engouement médiatique pour ce hashtag skinny talk. Alors qu'est-ce qui signifie ce hashtag? Il glorifie la maigreur extrême, culpabilise et diffuse des messages incitant à la métamorphose du corps, au prix de restrictions alimentaires à haut risque. Ces algorithmes proposent de brèves vidéos qui s'enchaînent à l'infini et ça crée une répétition mais quasi hypnotique. Une simple recherche suffit pour tomber sur des milliers de publications valorisant la restriction calorique, la culpabilisation après avoir mangé ou la glorification de la maigreur. Certaines publications sur ce hashtag skinny talk atteignent plusieurs millions de vues. Leurs auteurs ou autrices, souvent perçus d'ailleurs comme des modèles par des adolescents, en quête d'identification bien sûr, délivrent des messages violents. Donc là je cite « J'espère que ce que tu as mangé vaut la peine d'être gros cet été » ou encore « 1000 kilocalories par jour max si tu veux être jolie ». Voilà, c'est bien sûr tout particulièrement choquant, c'est un parfait exemple de ce qui est prôné par cette tendance. Les corps masses sont les modèles dans lesquels chacun devrait se conformer, car ils seraient soi-disant les plus beaux et on devrait aller jusqu'à mettre en péril notre propre santé pour atteindre des objectifs de maigreur quasi impossibles. Dorénavant, cette trend, elle a été enfin supprimée de TikTok. On ne peut plus y accéder et d'ailleurs on nous affiche un message. Et là je cite « Tu n'es pas seul ». Si toi ou une personne de ton entourage vous posez des questions sur l'image que vous renvoie votre corps, sur l'alimentation ou sur l'exercice physique, sachez que vous n'êtes pas seul. Si tu veux, tu peux te confier à une personne de confiance ou consulter les ressources ci-dessous. N'oublie pas de prendre soin de toi et des autres. Alors, cet encadrement, il fait plaisir, il se veut être rassurant, mais malheureusement, il intervient bien tard. Cette trend, elle a eu le temps de faire de bien gros dégâts, comme d'ailleurs le montre l'extrait du reportage Réseaux sociaux, nos corps sous influence, de Diana Buitrago, qui a récolté le témoignage de Ella Marouani.
J'ai perdu 10 kilos en presque un mois et demi, et la seule solution, c'est arrêter de manger. Déjà, message de préinvention.
Quand j'ai découvert ce contenu, ça me donnait super envie de leur ressembler, en fait. J'ai appris des techniques pour éliminer le plus rapidement possible. J'ai appris à vomir sur les réseaux sociaux. Ça m'a vraiment amenée à un extrême, en fait. Mais à l'époque, c'était les 5 premiers kilos qui m'ont amenée après vers la spirale infernale.
C'est-à-dire ?
J'ai perdu plus de 20 kilos à la suite de ça.
Alors ce témoignage, il est bien sûr choquant et il nous a permis d'illustrer concrètement en quoi les réseaux sociaux peuvent mener à de sérieux problèmes mentaux. Donc cette étude de cas sur l'image corporelle dégradée par les réseaux sociaux, elle nous a permis de démontrer les aspects négatifs pouvant être assurés par les médias sociaux. Elles peuvent bien représenter un grand danger sur la santé mentale.
Waouh, bien merci pour toutes ces informations, Camille. C'était un témoignage très, très pesant, mais important à mettre dans cette émission. Il est vrai que ça peut sembler inquiétant, ou plutôt surprenant, tout ce qui peut être engendré par des plateformes censées de base connecter des gens, ou leur offrir une proximité, une possibilité d'échanger. Donc, même si on est à l'autre bout du monde, normalement, c'est censé promouvoir la connexion et pas forcément des choses aussi graves. On va faire une petite pause musicale avant de reprendre avec les arguments qui valorisent cette fois-ci les impacts positifs des réseaux sociaux sur la santé mentale, afin de vous offrir, chers auditeurs et auditrices, tout un éventail d'idées pour vous forger votre propre avis sur la question. À tout de suite. Voici Super Sad Generation d'Arlo Parks.
end it, we get so skinny. Start doing ketamine on weekends, getting wasted at the station, and trying to keep our friends from death. We're trying to keep our friends from death. Yesterday, I heard you say, everything will sort itself if I get to LA. And we're a super sad generation, killing time and losing our paychecks. And we're a super sad generation, killing time and losing our paychecks. We're bugging out, it's not hard to see. Drop three taps quick in the back of the Prius. Rainbow crop top, Billie Jean. Might kill myself if you don't pick me. Prom queens brushing blood out their teeth, it's clean. Don't call me grieving for what we used to be. We're 17, just let it be. Drink some coffee, pretend it's the 60s. Yesterday, I heard you say, everything will sort itself if I get to LA. And we're a super sad generation, killing time and losing our paychecks. And we're a super sad generation, killing time and losing our paychecks. We're killing time and losing our paychecks.
C'était Super Sad Generation d'Arlo Parks, une artiste britannique reconnue pour ses textes sensibles et poétiques, qui évoquent souvent les tourments de la jeunesse contemporaine. Dans cette chanson, elle dresse un portrait brut, mélancolique et lucide d'une génération en proie à l'anxiété, aux addictions et à la perte de repères, mais aussi à une forme de lucidité crue sur ses propres fragilités. Le titre met en lumière le mal-être diffus qui touche de nombreux jeunes, notamment dans un contexte où les réseaux sociaux jouent un rôle ambivalent, à la fois exutoire, espace de connexion et de représentation, mais aussi source de comparaison, de pression et d'isolement, comme on l'a vu. Si Super Sad Generation ne parle pas explicitement des réseaux sociaux, elle résonne fortement avec les émotions que ces plateformes peuvent amplifier. Et c'est justement ce paradoxe que nous allons explorer dans la suite de notre émission. Comment les réseaux sociaux, tout en exposant les failles, peuvent aussi ouvrir des espaces de parole, de soutien, voire de guérison. Dia, peux-tu nous dire plus sur les effets bénéfiques des réseaux sociaux sur leurs utilisateurs? Dans quelle mesure ils réussissent à impacter positivement notre santé mentale ou notre style de vie?
Alors, les réseaux sociaux envahissent les fils d'actualité des gens avec des histoires sur les dangers de la dépendance et du harcèlement et l'impératif pour chacun d'être toujours à son meilleur. C'est assez vrai, mais souvent on a tendance à négliger dans cette discussion qu'il n'y a pas que du mauvais dans les réseaux sociaux. Ils peuvent être une véritable aide, notamment pour les jeunes souffrant de problèmes de santé mentale. Pour beaucoup de jeunes, les réseaux sociaux sont désormais leur seul refuge. C'est vraiment le seul exutoire où ils peuvent exprimer complètement et sincèrement ce qu'ils ont dans le cœur. Il n'est plus nécessaire de tout transmettre aux personnes qui les entourent. Pour certaines personnes, bien sûr, parler avec leurs parents ou amis de l'école n'est tout simplement pas envisageable. Cependant, sur le web, sous un pseudonyme ou dans un groupe de soutien, ils trouvent des auditeurs attentifs qui ne sont pas intrusifs et ils entrent en contact avec des personnes qu'elles peuvent leur donner des conseils, étant donné qu'elles ont déjà vécu la même chose ou le vivent actuellement. Cela change tout. Cela permet à certains de mettre un nom sur les émotions qu'ils ressentent, plutôt que de continuer à souffrir en solitude. Ou à d'autres de découvrir qu'ils ne sont pas seuls à trouver le sommeil difficile, à perdre confiance ou à souffrir de périodes de stress et d'anxiété. Il suffit d'un seul récit, d'un message, et parfois la perspective d'un jeune peut changer. Une histoire, une expérience partagée, un sentiment transmis plus tard, et tout d'un coup, c'est un monde différent pour les personnes qui ont la santé mentale assez fragile. De tels moments précieux ne peuvent être déclenchés que par des personnes qui se sont mises en contact avec d'autres. Notamment, les réseaux sociaux leur offrent cette opportunité d'échange. Bah, les jeunes réalisent qu'il y a d'autres comme eux dans le monde, des gens qui ont des problèmes similaires, et cela produit une sorte de solidarité invisible, mais par contre très puissante. Les réseaux sociaux ressemblent de plus en plus aux endroits où l'on vit aujourd'hui. Ce sont des espaces où les gens créent du contenu et partagent ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils pensent. Et quand ce qu'ils partagent est vu ou reconnu par quelqu'un d'autre, par exemple quand quelqu'un leur dit « merci pour ce que tu as écrit » ou laisse un petit message d'encouragement comme « continue, c'est super ce que tu fais », ces mots-là font vraiment du bien. Ils remontent le moral et donnent envie de continuer. Et petit à petit, la personne commence à se sentir fière de ce qu'elle a fait. Ce qu'elle publie prend plus de valeur à ses yeux. C'est donc une chose indispensable pour maintenir harmonieusement la vie mentale, surtout à une époque appelée l'adolescence. Encore une fois, il y a aussi une grande quantité d'informations sur la santé mentale, sur la façon de rester en forme et bien sûr l'image de soi. Donc aujourd'hui, ce que vous pouvez voir sur TikTok ou Instagram, ce ne sont pas seulement des professionnels comme des psychologues, des coachs, etc., mais aussi de jeunes inconnus ordinaires racontant leur propre histoire qui se sont déroulées au fil du temps. Nous avons même trouvé des jeunes qui vont vraiment mieux maintenant parce qu'ils sont entrés dans les réseaux sociaux, ont commencé à en parler avec des adultes, avoir des conversations entières avec un psychologue, parfois juste à tenir un journal et à écrire au lieu de parler ou de méditer. Ce sont toutes des manières qui ne leur seraient probablement jamais venues à l'esprit si un post ou une vidéo n'a pas fini par les atteindre à ce moment-là.
Merci à toi, Dia, pour toutes ces informations qui viennent égayer cette émission. Ça nous a fait beaucoup de bien. Exactement de la même façon que pour les arguments contre, nous allons avoir une étude de cas pour appuyer nos propos. Célestine, je crois que c'est toi qui as réfléchi sur cette partie. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur la question ?
Alors, avec plaisir, Zoé. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Alors, cette histoire, elle mêle les réseaux sociaux, la santé mentale et le courage, mais surtout l'espoir. Parce que dans une époque où on critique souvent les effets négatifs d'Instagram, de TikTok ou de YouTube sur les jeunes, on oublie parfois que ces outils, entre les bonnes mains, ça peut aussi sauver des vies. Et cette histoire, c'est celle de Miel Abitol. C'est une jeune femme influenceuse, mais aussi survivante, chef d'entreprise à seulement 17 ans et cofondatrice d'une application qui fait beaucoup parler d'elle, Link. L-Y-Y-N-K. Une application pensée pour la santé mentale des jeunes, conçue avec l'aide de son père et de sa psychiatre, le docteur Claire Morin. Miel, c'est d'abord une adolescente comme tant d'autres. Au collège, elle est victime de harcèlement scolaire et d'un acte particulièrement violent, du revenge porn. Elle encaisse en silence. Elle souffre sans en parler. Jusqu'au jour où cette douleur devient trop lourde. Miel tente de mettre fin à ses jours. C'est sur un lit d'hôpital que ses parents découvrent la violence qu'elle subit au quotidien. Et c'est là que commence pour elle le vrai combat, celui de la reconstruction. Suivie médicalement, hospitalisée, accompagnée, Miel entame un long chemin de guérison. Mais en parallèle, elle est déjà visible sur les réseaux. Et au lieu de cacher ce qu'elle traverse, elle choisit de le partager. Elle parle sans filtre, sans tabou de santé mentale, de souffrance, de thérapie, de solitude. Et très vite, elle se rend compte qu'elle n'est pas seule. Sur son Instagram, elle partage une vidéo d'une interview du Figaro étudiant. Voici ce qu'elle dit.
C'est tout un schéma. Et du coup, toutes ces choses-là que je vivais, moi, je les partageais très ouvertement sur les réseaux. Et j'ai réalisé que j'étais pas seule, en fait, à vivre tout ça. C'est qu'il y a plein d'autres jeunes qui me disaient « Ah, mais moi aussi, je vis ça. Mais moi aussi, j'ai vécu ce truc-là. » J'ai l'impression que quand on n'est pas bien, c'est vraiment ce sentiment qui prend le dessus, c'est de se sentir seule et incompris. Et en parlant aussi ouvertement, j'ai réalisé que c'était tout l'inverse. C'est qu'on était énormément à vivre ça. Donc, quand j'ai commencé à aller mieux, naturellement, j'ai commencé à donner un peu des conseils, des choses qui m'ont aidée, que j'aurais aimé savoir, des choses que j'aurais aimé entendre.
Alors ces mots, ils sont assez puissant parce qu'il montre que la parole, elle peut casser l'isolement. Miel, elle décide alors d'aller plus loin. Quand elle commence à aller un peu mieux, elle publie des messages, des vidéos dans lesquelles elle donne des conseils qu'elle aurait aimé entendre quand elle n'allait pas bien. Et c'est là qu'émerge l'idée de Link, une application pensée pour aider ceux qui souffrent en silence, comme elle l'a fait. Link, elle a été lancée le 12 septembre 2024. Elle est cofondée par Miel, son père et sa psychiatre. L'objectif, c'est de créer un espace numérique bienveillant, conçu par des personnes qui comprennent vraiment ce que vivent les jeunes. Link, ce n'est pas une appli comme les autres. Ce n'est pas un réseau social de plus. C'est une boîte à outils émotionnels, un refuge numérique, une passerelle entre les souffrances et le soin. Ses fonctionnalités principales sont... il y a un calendrier émotionnel. Donc chaque jour, l'utilisateur, il peut noter comme il se sent. Ça permet de suivre son état mental dans le temps et d'identifier des cycles, des rechutes et des progrès. Il y a également, on peut également mettre ses résolutions, donc on peut se fixer des objectifs. Ça peut être des objectifs simples, atteignables, comme boire de l'eau aujourd'hui, parler à quelqu'un ou sortir marcher 10 minutes. Il y a également un journal intime pour poser ses pensées sans filtre, sans jugement. Il y a aussi un système de connexion à un adulte de confiance. Ça peut être un parent, un enseignant, un éducateur ou un psy. Le jeune peut choisir ce qu'il partage ou non à la personne de confiance, donc à l'adulte. Il y a également la possibilité de créer un contrat de confiance, une sorte de pacte pour avancer ensemble avec cette personne. Une des fonctionnalités est également le kit de secours. C'est un outil pour les moments de crise. Donc sur le site internet link.com, il nous a indiqué que le kit de secours, c'est on peut par exemple enregistrer des numéros de ses proches, créer des dossiers, coup de cœur, avec des vidéos ou des photos qui réconfortent. Et on peut même sauvegarder des playlists musicales qui apaisent. C'est simple, c'est concret et surtout c'est pensé pour être utile, ici et maintenant. Ce qui rend Link encore plus fort, c'est qu'il y a un espace pour les adultes. Parce que souvent, les parents, les enseignants, les proches ne savent pas vraiment comment aider un ado qui va mal. Dans l'application, ils peuvent accéder à un forum tenu par des professionnels de santé mentale, mais également un blog éducatif avec des articles, des vidéos pour apprendre à mieux comprendre l'anxiété, les troubles et les signaux faibles. Link crée un langage commun entre les jeunes et les adultes. L'application redonne la parole aux ados et les outils aux adultes pour les écouter sans juger. Sur le site internet link.com, on peut trouver des avis des utilisateurs qui ont utilisé l'application et qui font donc des retours dessus. Nous avons par exemple le commentaire de Thibaut sur l'application qui dit « L'application est super, on peut vraiment s'exprimer comme on ne sait pas trop ce qui se passe dans notre tête. Et l'espace adulte est rassurant, sans être intrusif. Merci Miel pour cette appli. » Il y a également un témoignage d'un utilisateur anonyme qui dit « Ça fait du bien de retrouver une application qui veut faire les choses bien, et pas juste de l'argent sur le dos des jeunes avec des achats intégrés et des pubs en masse, entre parenthèses, souvent nuls en plus. » L'application est très récente, mais les retours des utilisateurs sont très positifs. En effet, la note de l'application sur l'App Store est de 4,9 sur 5. Link, c'est aussi un message pour la société. Elle nous dit que la santé mentale des jeunes n'est plus un sujet tabou. On peut en parler simplement avec les bons outils. Elle nous montre aussi que les réseaux sociaux ne sont pas toujours le problème. Ils peuvent devenir la solution à condition qu'ils soient utilisés avec sens, humilité et empathie. Le 21 mars 2025, Miel est reçue à l'Élysée par le président de la République après l'avoir interpellée sur les réseaux sociaux sur l'inaccessibilité des soins. Elle raconte cette rencontre dans l'émission Le Grand Témoin sur Télématin.
Comment est-ce que vous avez été accueillis justement?
On a été plutôt bien accueillis. Enfin, franchement, ça s'est très bien passé. Le rendez-vous, honnêtement, il s'est bien passé. Nous, on a parlé de notre démarche. On a dit ce qu'on pensait par rapport à la santé mentale des jeunes, nos projets à venir et tout. Ils étaient plutôt en accord avec nos propositions et avec notre démarche. Donc ouais. Ça, c'était bien. Après, évidemment, aujourd'hui, il n'y a rien qui est encore acté, il n'y a rien qui est encore défini, il n'y a pas d'action concrète encore mise en place.
Alors, mais concrètement, vous leur avez demandé quoi? Parce que vous êtes arrivés, vous avez été accueillis dans un bureau.
Oui.
D'accord.
Dans un bureau. Concrètement, on a fait deux propositions d'urgence.
D'accord.
Et d'autres propositions plus moyen terme et long terme. Les deux propositions d'urgence, c'est une semaine respire pour les jeunes, donc une semaine sans devoir à l'école pendant une semaine par trimestre, sans devoir. Et après, c'est un repos santé mentale. Donc, sous recommandation d'un psychologue ou d'un médecin, pouvoir avoir des demi-journées d'absence sans justification à l'école. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont une pression
de ouf, ils vont à l'école, ils font du 8h-18h, ils rentrent, ils ont en plus les devoirs, ils doivent réviser pour leur contrôle et machin, ils respirent pas en fait. Donc un peu reposer tout ça, ce serait pas mal.
Voilà, c'était le passage de Miel, 17 ans, dans l'émission Le Grand Témoin sur Télématin. Donc c'est fort, c'est symbolique et c'est la preuve que la parole d'une jeune femme, elle peut faire bouger les lignes. En conclusion, Link, ce n'est pas juste une appli, c'est un geste fort. Un geste qui dit « tu as le droit d'avoir mal ». Un geste qui tend la main aux ados sans moraliser, sans effrayer, sans compliquer. Grâce à Link, on peut noter son humeur, trouver un contact, écouter une chanson qui console, écrire un mot qui libère, faire le lien avec un adulte, apprendre à s'écouter soi-même. Et surtout, comprendre qu'on n'est jamais seul. Alors oui, parfois une appli peut faire la différence. Et parfois une influence peut devenir un relais de soins, un vecteur d'espoir et une actrice de changement. Merci à Miel, à Claire Morin et à toute l'équipe de Link. Et merci à vous de m'avoir écouté.
Bah merci beaucoup, j'ai adoré cette étude de cas. C'est vrai qu'elle nous donne beaucoup d'espoir finalement sur ces questions. Et j'espère que pour nos chers auditeurs et auditrices, qu'avec ces différentes informations que nous avons fournies, vous allez pouvoir à la maison réfléchir sur la question. On fait une nouvelle pause musicale avant de revenir sur notre émission sur les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale. Voici Carmen de Stromae.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi
et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi.
Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Regarde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi.
Regarde à toi.
Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi.
Un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats.
Hey.
C'était Carmen de Stromae, un titre emblématique qui détourne l'air de l'opéra de Bizet pour dresser une critique acide de notre rapport aux réseaux sociaux et plus particulièrement à Twitter. Avec son style percutant, Stromae dépeint l'amour comme un produit de consommation éphémère, modelé par les logiques de like, de follow et de validation numérique. Les relations y deviennent jetables, rythmées par l'économie de l'attention. Le refrain, et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme, met en lumière un glissement. On ne se contente plus de vivre des émotions, on les met en scène, on les expose, on les monétise parfois. L'individu devient une vitrine et l'amour un produit parmi d'autres. La chanson dénonce aussi la solitude cachée derrière l'hyperconnexion. Des amis, des followers, mais peu de liens véritables. Ce portrait critique résonne particulièrement lorsqu'on parle des effets délétères des réseaux sur la santé mentale. Isolement, quête d'approbation constante et dépendance à l'image. Après avoir vu les potentiels positifs des réseaux sociaux, cette chanson nous invite à en interroger les revers, ce que nous allons faire dans la suite de notre émission. On continue donc sur la santé mentale des jeunes vis-à-vis du numérique, c'est bien ça ?
Tout à fait, et rien de mieux pour se faire une idée de la situation qu'un petit rapport de l'OMS. Pas vrai, Charlie ?
Parfaitement. Et d'ailleurs, pour illustrer les effets notoires des réseaux sur les jeunes, on va maintenant regarder cette étude parue en décembre 2024.
Et de quoi nous parle cette étude exactement ?
Eh bien, c'est un rapport de l'enquête HBSC pour Health Behavior in School Age Children, une entité qui étudie la santé des jeunes au sein de l'Europe, l'Asie centrale et le Canada. Cette enquête, elle est renouvelée tous les 4 ans et elle est en collaboration avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le rapport présente des conclusions selon des sondages de 2021 à 2022 concernant l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes. Elle s'intitule « A Focus on Adolescent Social Media Use and Gaming in Europe, Central Asia and Canada ». Donc un focus sur l'utilisation des réseaux sociaux par les adolescents en Europe, Asie centrale et Canada. Dans le cadre de l'émission, nous nous concentrerons exclusivement sur l'étude des comportements impliquant les réseaux sociaux.
Donc j'imagine qu'on s'intéresse à un échantillon assez gros pour tirer ces analyses.
En effet, ce rapport y rend compte des résultats de sondages vis-à-vis de 44 pays et régions du monde, ce qui constitue une base d'études solide pour un rapport sur la santé. La légitimité d'une enquête sur ce sujet n'est plus à débattre. On vit maintenant dans une ère où les réseaux sociaux, ils occupent une place prépondérante.
Et oui, ça fait des années que les réseaux sociaux se développent. Au début, c'était MySpace, MSN, maintenant c'est Instagram, TikTok et Snapchat.
Exactement. Et à présent, on arrive à un point où les limites entre nos vies sociales et en ligne peuvent devenir floues. En particulier chez les adolescents, l'importance de se découvrir, d'interagir avec ses pairs et d'explorer le monde est capitale. Et les réseaux sociaux sont devenus un instrument de lien primordial pour ça. Malheureusement, on voit bien que depuis des années, leur utilisation ne cesse d'augmenter.
On remarque aussi que certains adolescents et adolescentes ont des difficultés à contrôler certaines pulsions les menant au monde des réseaux. Il y en a qui se sentent anxieux ou stressés lorsqu'ils ne sont pas en ligne constamment.
Complètement. On trouve même un lien étroit entre une mauvaise utilisation des réseaux et un manque de bien-être social, mental et à l'école chez les adolescents. D'où l'urgence de rendre compte d'une analyse des comportements des adolescents sur les réseaux sociaux via ce rapport d'enquête.
Et qu'est-ce qu'on vient observer dans cette étude exactement du coup ?
Eh bien, concernant l'utilisation des réseaux sociaux, qu'on appellera SMU pour Social Media Use, l'enquête se base sur 4 paramètres distincts. Le premier, c'est la continuité du contact en ligne des jeunes avec leurs amis et autres. Le deuxième, c'est l'usage problématique des jeunes sur les réseaux. Vient ensuite les différences de patterns entre les sexes, l'âge et le statut socio-économique des participants. Et enfin, l'évolution observée par rapport à l'enquête HBSC de 2017-2018.
Et comment on a mesuré ces paramètres concrètement ?
Eh bien, pour ce qui est des 2 premiers paramètres, la fréquence du contact en ligne des jeunes avec leurs proches, on leur a simplement demandé de se situer sur une échelle de fréquence allant de 1 pour quasiment jamais à 5 pour quasiment tout le temps. Pour ce qui est du deuxième paramètre, le SMU problématique, les participants ont dû répondre à 9 questions, par oui ou par non, pour déceler une quelconque forme d'addiction. À partir de ce paramètre, les participants ont été ainsi classés en 4 groupes. Les utilisateurs inactifs, actifs, intensément actifs et problématiques.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut observer dans les résultats ?
Eh bien, concernant le premier paramètre, à savoir la fréquence d'utilisation des réseaux sociaux, on trouve que 36% des adolescents avouent avoir un contact quasi constant avec leurs proches durant la journée.
C'est énorme. Est-ce que les observations sont les mêmes pour les deux sexes ?
Effectivement, on observe une différence entre les filles et les garçons. Sur les trois groupes d'âge étudiés, 11, 13 et 15 ans, les filles montrent des signes plus prononcés que les garçons concernant le SMU. On observe également que l'intensité du SMU, elle augmente avec l'âge et le degré d'aisance de la famille du participant. Globalement, 34% pour les familles les moins aisées contre 40% pour les familles les plus aisées sur l'échelle de prévalence.
Et j'imagine qu'on tire à peu près les mêmes observations pour le deuxième paramètre d'étude ?
Eh bien, pas exactement, et heureusement d'ailleurs. On estime que seulement 11% des jeunes ont une utilisation problématique des réseaux sociaux, dans le sens où ils montrent des signes d'addiction prononcés, là où on était à 7% en 2018.
C'est déjà beaucoup quand on y pense, une personne sur 10 qui y présente des signes d'addiction. On voit que l'utilisation des réseaux n'est pas encore bien cadrée, du coup.
C'est clair. Et on voit aussi dans ce deuxième axe d'étude que, autant que dans le premier, l'augmentation progressive de cette utilisation problématique selon l'âge des groupes étudiés, 11 et 13 ans. Les mêmes remarques sont à faire sur les différences filles-garçons.
Les filles sont encore d'autant plus touchées que les garçons sur ce domaine, c'est-à-dire ?
Oui, l'étude montre clairement les disparités face aux réseaux selon les sexes. Mais contrairement à l'étude de la fréquence des réseaux, on observe une différence mineure de la qualité du SMU en fonction de l'aisance des foyers. Quand on combine ces deux axes d'études, on voit que la majorité des adolescents se situe parmi les actifs et intensément actifs. Les SMU problématiques restant une minorité. Tout comme l'étude de la fréquence, on observe une légère augmentation depuis l'enquête de 2018.
Et donc, quelles sont les implications finales de l'étude par rapport à ces résultats ?
Eh bien, on remarque que la proportion SMU problématique parmi les adolescents, elle augmente au fil du temps. Ça, c'est indéniable. La différence filles-garçons, elle est avérée, et les filles sont clairement plus sujettes aux problèmes rencontrés. On peut aussi conclure que les groupes d'adolescents de plus de 13 ans sont plus sensibles à une fréquence de SMU plus élevée et plus problématique que ceux de 11 ans, par exemple.
Donc, finalement, tout augmente avec les années. Si on a une montée de l'utilisation problématique des réseaux, on doit s'attendre à ce que la situation empire si des mesures ne sont pas prises pour encadrer l'usage des réseaux sociaux. Il faudrait qu'on arrive à peut-être promouvoir efficacement un style de vie sain en accord avec leur utilisation des réseaux, de manière à leur apprendre à équilibrer leur vie et leurs interactions en ligne. Et aussi qu'on puisse adapter les solutions en fonction des profils, garçons ou filles.
Totalement. Sans oublier qu'il faut renforcer les restrictions d'âge sur les réseaux sociaux, qui sont généralement à partir de 13 ans. Il faudrait également mieux sensibiliser les parents et les enseignants par rapport au SMU des enfants concernés.
Et puis tout ce système de récompenses instauré par l'industrie des réseaux sociaux, des likes, les commentaires, c'est eux qui devraient être responsables des dérives qui peuvent prendre leurs produits. Mais ils n'ont aucune raison de changer si ça leur apporte de l'argent. La situation est donc super complexe. Il faut espérer que les dérives cessent de croître avec les années et qu'on arrive peut-être à réguler tout ça.
Et oui, malheureusement, depuis la pandémie du Covid-19, la vie des adolescents elle a drastiquement changé. Et les chiffres qui grimpent en flèche parlent d'eux-mêmes. Cependant, il faut noter que d'autres études ont montré qu'un SMU problématique, c'est pas forcément lié directement à une mauvaise santé mentale chez les jeunes. On n'observe pas tout le temps une cause, mais plutôt une forte corrélation.
En plus, si l'utilisation est contrôlée, on peut carrément avoir des effets positifs sur la santé mentale. On l'a juste vu avant d'aborder cette enquête.
Eh oui, t'as complètement raison. D'ailleurs, l'étude le mentionne très bien dans la conclusion. Si on arrive à modérer l'impact des réseaux sur les adolescents, c'est l'une des clés d'une vie d'adulte saine sur le plan relationnel.
Bah, en effet, merci énormément pour ce rapport, Charles Ali. C'est tout de suite plus parlant lorsqu'on vient chercher des informations directement depuis l'OMS.
Et de rien.
Bah, merci beaucoup. Donc, afin de clôturer notre réflexion sur l'impact des réseaux sociaux sur notre rapport à l'intimité, à la solitude et au temps, on vous propose une pause musicale. Voici « Seul avec du monde autour » de Aurel San.
Adieu Twitter, Insta, Snap, Thomas, je vais rater quelques mèmes. J'travaille mes sons, j'travaille mon shoot, j'travaille mon couple, j'travaille mes textes. C'est fou, j'travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. J'habitais dans une ville de merde avec la tour Eiffel dedans. Où les gens sont tristes et pressés, où les gens pleurent en marchant. Mais je viens de prendre une maison près de Caen où ma famille passe les dimanches. Ma grand-mère part à la messe pendant que ma nièce regarde les anges. En chaussons dans mes crocs, j'emmène ma zouze au mini-golf. On vit avant d'avoir des gosses, ouais, ouais. Ensemble comme alcool et clopes, j'm'en branle, j'écoute que de la K-pop. Trottinette électrique de cross, ouais, ouais. Mon meilleur pote vient faire de la boxe, j'fais que de me faire péter la gueule. On trouve les gars par de vrais trucs, j'en la vérité sur les meufs. J'me lève à 8h pour écrire, j'suis clairement pas un vrai rappeur. Soirée karaoké, chante ODD, Ademo c'est ma sœur. Adieu Twitter, Insta, Snap, Thomas, j'vais rater quelques mèmes. J'travaille mes sons, j'travaille mon shoot, j'travaille mon couple, j'travaille mes textes. C'est fou, j'travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, j'vais pas te cacher que la vie est belle. Adieu Twitter, Insta, Snap, Thomas, j'vais rater quelques mèmes. J'travaille mes sons, j'travaille mon shoot, j'travaille mon couple, j'travaille mes textes. C'est fou, j'travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, j'vais pas te cacher que la vie est belle. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. J'habite juste à côté de la mer, on se peigne jamais parce qu'elle est froide. J'suis content rien que de la voir, avant j'voyais que l'immeuble d'en face. J'essaie d'apprendre à cuisiner, genre de faire autre chose que des pâtes. Une fois sûr de j'rate mes plats, donc en attendant j'mange des pâtes. J'ai max une barre de 3, j'ai lève le bras pour 20 minutes pour mater une vidéo quand fait 4, ouais. Je rejoins mon père au stade, on prend de buts, on prend de bières. Je retourne chez moi, j'allume FIFA, je reprends ma l'herbe, je continue de perdre, ouais. Adieu Twitter, Insta, Snap, Thomas, je vais rater quelques mèmes. Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je travaille mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. Adieu Twitter, Insta, Snap, Thomas, je vais rater quelques mèmes. Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je travaille mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. Seul avec du monde autour.
C'était Seul avec du monde autour de Orelsan. Une chanson qui raconte le besoin de décrocher, de ralentir et de se reconnecter à des choses simples, loin de l'agitation numérique et sociale. Orelsan y partage des scènes de sa vie, des moments familiaux, des galères du quotidien, des instants doux, parfois absurdes et surtout, cette impression d'être seul, même entouré. Il évoque son départ de Paris pour s'installer près de Caen, loin des réseaux sociaux, adieu Twitter, Snap, Insta, dommage je vais rater quelques mèmes, comme une forme de désintoxication numérique. Une mise à distance nécessaire pour retrouver une forme de présence à soi. Mais ce qui frappe, c'est le paradoxe répété dans le refrain « Seul avec du monde autour ». Même si malgré la présence physique ou virtuelle des autres, un sentiment de vide persistait. Une solitude bien connue à l'ère des écrans, hyper connectée, mais déconnectée de l'essentiel. Cette chanson complète bien notre discussion en soulignant que parfois, pour mieux vivre avec les autres, il faut apprendre à être vraiment seul et à s'éloigner un peu du flux constant d'informations et d'interactions. Notre émission touche maintenant à sa fin. Vous écoutiez Les Échos de l'innovation, une émission de débat et de culture scientifique animée par les étudiants du cours de sciences et débats publics de l'Université de technologie de Compiègne. Aujourd'hui, nous avons exploré ensemble les enjeux des outils Internet et des réseaux sociaux sur la santé mentale. Si les réseaux sociaux peuvent être un formidable outil de connexion et d'expression, ils soulèvent aussi des enjeux majeurs pour notre santé mentale. À nous de les utiliser avec conscience et bienveillance pour qu'ils restent au service de notre équilibre et non à son détriment. Merci à nos intervenants pour la richesse de leurs échanges, Camille, Célestine, Charlélie, Dia et moi-même Zoé. Côté musique, vous avez entendu Super Sad Generation de Arlo Parks, Carmen de Stromae et Seul avec du monde autour de Orelsan. Le jingle et le générique de cette émission ont été composés par Joseph Brichet et Gabriel Jean-Jambre sous licence libre Creative Commons CC by SA. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode des Échos de l'innovation à l'antenne de la radio Graphite 94.9 FM. Merci beaucoup.